te bénissons pour ces moments que nous passons devant ta parole, pour l'étudier afin de pouvoir mettre en pratique les bonnes lois spirituelles, morales, mentales, tout ce que tu mets dans ta parole et qui est caché un peu, mais que nous pouvons trouver grâce au secours de ton esprit pour vivre une bonne vie. Merci Seigneur de nous aider encore ce matin. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.
Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Qu'est-ce qu'on fait comme chant, Maître Capello?
Qui brûle en moi, je fais trembler les murs de Jéricho. Après l'épreuve, c'est le renouveau de mon amour et de ma joie. Allez, venez, approchez pour voir. Allez, venez, écoutez pour croire. Allez, venez, penchez-vous pour boire. Allez, venez, pour redonner l'espoir. Même sans voir, je veux croire, la vérité se fond dans ma bouche. L'obéissance remplace mes sens. Je suis libre de mes déchéances. Allez, venez, approchez pour voir. Allez, venez, écoutez pour croire. Allez, venez, penchez-vous pour boire. Allez, venez, pour redonner l'espoir.
Dans Jean chapitre 5, versets 19 à 20, c'est un enseignement que je vous donne. Je pense que si vous voulez écouter des prédications, Vous pouvez en avoir plein, tout ce que vous voulez, dans les églises, sur Internet, partout, à la télévision. Là, ce que je veux vous apporter, c'est un enseignement, parce que je trouve que ça manque cruellement dans les églises, des enseignements pratiques. Et donc, je voudrais que ce matin, on se consacre à ça encore une fois. Jean chapitre 5, verset 19-20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Ah. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Amen. Alors, il faut que nous apprenions des choses, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans ce monde. Il y a une confusion dans la pensée de beaucoup de chrétiens qui se voient ici-bas sur terre comme des entités séparées de Dieu, c'est-à-dire Dieu est au ciel, et puis voilà, puis alors il faut le prier, il faut jeûner, il faut toutes ces choses-là, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, qu'il ne faut pas jeûner, mais il y a des nuances qu'ils semblent ne pas avoir très bien compris. En fait, ne sont séparés de Dieu que ceux qui aiment les ténèbres. Et le péché met une séparation entre Dieu et les gens. Mais même là encore, cette séparation, elle est relative, parce que si vous y pensez bien, il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. Les mêmes gens qui sont dans la situation de confusion dont je vous parlais tout à l'heure, vous les entendez prier, demandant à Dieu de les précéder dans le lieu où ils vont aller louer le Seigneur, ou alors demandant « Jésus, viens, viens Seigneur Jésus !» Mais comment voulez-vous que Jésus vienne? Il est partout, il est omniprésent. Donc il y a beaucoup de confusion. Et quand on est dans la confusion, c'est pas la vérité. Et quand on n'est pas dans la vérité, on est à côté. Et il y a des choses que Dieu fait pour nous parce que ben voilà, il nous aime. Puis bon, mais il préférait quand même qu'on connaisse la vérité parce que c'est la vérité qui nous rend libres. Dieu tient toute chose entre ses mains et si le pécheur est séparé de Dieu, Dieu le voit quand même. Dieu le voit quand même. Rien ne se fait sans que Dieu ne le permette. Donc la séparation, si vous voulez. Pour le pécheur, il y a une séparation dans sa conscience, mais Dieu, il est partout et il voit tout le monde. Même si eux ne voient pas Dieu, même s'ils ne sentent pas sa présence, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Hein, voilà. Alors, ils ne sont plus conscients de la présence de Dieu, ou alors ils se trompent eux-mêmes quant à la présence de Dieu dans leur vie. Ça, c'est plus vicieux encore. Ça, c'est beaucoup plus vicieux. Pour un enfant de Dieu qui marche en obéissance, parce que je dis toujours, c'est vrai, nous avons été sauvés, mais il y a quand même la condition, celui qui marchera jusqu'au bout sera sauvé. Hein? Donc, pour un enfant de Dieu qui marche dans l'obéissance, l'affaire du péché, ça a été réglé à la croix, c'est clair. Et le croyant, donc, à partir du moment où il devient croyant, il persévère jour après jour dans une œuvre de sanctification de sa propre vie, au sein de l'Église de Jésus-Christ. On ne peut pas être en dehors de l'Église de Jésus-Christ. On sort de la fausse Église, mais on reste dans la vraie. Amen. Voilà. Mais bien que les gens ne soient pas parfaits, bien que nous ne soyons pas parfaits, nous savons que nous sommes en communion aimante avec Dieu. Parce que Dieu nous voit parfaits au travers du sang de Jésus-Christ. Mais nous, quand même, sur cette terre, ça serait quand même un peu de l'arrogance que de dire que nous sommes parfaits. Hein? Ah non, vous pensez que... Ah bon. Comme Paul le dit, tout est un peu flou. C'est un peu comme si on se voyait dans un miroir, mais pas un miroir d'aujourd'hui, un miroir de l'époque de Paul. C'est-à-dire, c'était du cuivre poli en général. Puis bon, on se voyait, mais bon, voilà. Comme disait ma mère, ce miroir est tellement abîmé que c'est formidable, je ne vois plus mes rides. Elle aimait bien son miroir. Il n'est pas question du tout de sentir la présence de Dieu. Là aussi, c'est une grande confusion. Il est question pour le croyant de vivre la présence de Dieu. Pas vivre dans la présence de Dieu, mais vivre la présence de Dieu. Parce que si Dieu est partout, il le sait, il est aussi, et il le dit, en nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans les autres, parce qu'il est partout. Mais il se manifeste au travers de ses enfants. Hein? Jésus-Christ vit en nous par son esprit, et plus nous marchons dans la lumière, dans la vérité biblique révélée et rétablie, plus nous sommes conscients de la présence de Dieu. Du temps de Luther, ils étaient conscients de la présence de Dieu avec la lumière qu'ils avaient. Après, il y a eu Wesley, ils étaient conscients de la présence de Dieu avec la lumière qu'ils avaient. Après, Branham est arrivé, ils étaient conscients de la présence de Dieu avec la lumière qu'ils avaient. Et aujourd'hui, avec la lumière que nous avons évolué. Ce n'est pas que nous sommes supérieurs à ces gens, pas du tout. Mais nous avons reçu, et si nous avons reçu, de quoi allons-nous nous glorifier, puisque c'est Dieu qui nous a donné? Soyons plutôt dans la gratitude et la louange, et remercions Dieu, et soyons humbles, mais nous sommes conscients de la présence de Dieu, parce que nous marchons dans cette lumière qui est aujourd'hui révélée et rétablie. Mais c'est une conscience qui est spirituelle, mes frères et sœurs, et ce n'est pas une conscience due à une sensation. Les sensations peuvent être erronées, comme les visions peuvent être erronées. Comme toute manifestation sensible à nos sens, ça peut être erroné. C'est spirituellement que nous vivons, ou pas, la présence de Dieu. Mais c'est spirituellement. C'est spirituellement. Même les interventions de Dieu dans notre vie ne rajoutent rien au fait que nous avons conscience de sa présence avec nous. C'est clair. Ceux qui connaissent mal Dieu pensent qu'ils ne sont pas libres puisque c'est Dieu qui gouverne leurs pas. Ils trouvent des versets là-dedans dans la Bible et ils pensent comme ça, ils disent « bon, alors on n'est pas libre ». Mais c'est une pensée qui est fausse. Elle est presque vraie, mais elle est fausse. Vous voyez, j'insiste toujours sur la communication. Et depuis que vous me connaissez, depuis tant d'années, vous voyez que je communique, je dis toujours tout. Même si je vais chez Mickey avec mes petits-enfants, je le dis, j'aime communiquer, j'aime parler, j'aime que les gens soient au courant, et puis j'aime bien aussi être au courant de ce qui se passe, j'aime la communication. Maintenant, la communication, elle peut être interrompue. Vous m'avez vu, surtout ces derniers temps, rompre la communication avec certaines personnes. Hier, là encore, j'ai reçu une lettre de quelqu'un qui veut me voir au mois d'avril, il ne me verra pas, je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir. Dieu agit comme ça avec nous aussi. Il rompt la communication avec ceux qui ont le cou raide, nous dit la Bible. Mais avec ses enfants soumis, il ne rompt pas la communication. Et il nous est dit dans 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc, comme il agit, nous devons agir et nous pouvons agir. Nous ne sommes pas obligés de fréquenter les arrogants. Nous ne sommes pas obligés de fréquenter les insulteurs, nous ne sommes pas obligés, non, on peut rompre la communication. Dieu le fait, alors nous pouvons le faire, parce que tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Et on n'a pas à culpabiliser pour ça, je vous le dis mes frères et sœurs, ne culpabilisez pas. Bon, la question, faut-il que quelqu'un me soit soumis pour que je garde une communication avec lui, puisque la Bible dit que c'est ceux qui font ma volonté, oui ça c'est Dieu. Mais moi, est-ce qu'il faut que les gens me soient soumis pour que je garde une bonne communication avec eux? Écoutez bien, la réponse, oui. Ah bon? Mais Michel, mais qu'est-ce que tu nous dis là? Alors là, tu inventes toujours des trucs, à la fin tu commences un petit peu à dérailler là, non? Bon, écoutez. Je dis que Jésus ordonne que chacun de nous regarde les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. N'est-ce pas écrit? Oui. Je suis d'accord avec Jésus, donc je regarde les autres comme étant supérieurs à moi-même, et en cela, je me mets dessous. Mis dessous égale soumis. Ça ne veut pas dire que je vais aller leur lécher les pieds et que je vais aller être servile, comme certains qu'on connaît qui sont là toujours. Servile, non, ce n'est pas ça. Mais écoutez bien, être soumis à eux, être mis dessous. Par contre, si une personne abuse de cette situation pour se permettre de me monter sur la tête, me manquer de respect, je romps la communication, puis c'est tout. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait avec nous. Écoutez bien,
Dieu s'est abaissé à notre niveau et même plus bas, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui sommes nés dans une étable. Hein? Et toute sa vie, c'était une vie de serviteur, n'est-ce pas? Il s'est mis en dessous, il a dit « Je suis venu pour vous servir ». Et c'est ce qu'il a fait, lui, Jésus. Pourtant, il était supérieur, n'était-il pas supérieur? Oui, mais pourtant, il a pris l'apparence d'un homme tout simple, il s'est même manifesté comme un esclave, comme un serviteur, lavant les pieds de ses disciples. C'était le symbole d'une démonstration de son humilité. Le comble, il a mis le comble à son amour là, quand il a fait ça. Mais, quand il a constaté l'étendue des dégâts dans sa maison, il s'est foutu en rogne, excusez-moi l'expression, et il a chassé ces gens à coups de fouet. Il s'est mis dessus. Il a pris l'autorité et la communication a été rompue, n'est-ce pas vrai? Vous voyez, vous devez regarder les autres comme étant supérieurs à vous, mais, alors allons plus loin, est-ce que Dieu nous regarde aujourd'hui comme étant supérieur ou inférieur à lui? C'est une question ça. Eh bien, c'est ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, il regarde ceux qui ont fait la paix avec lui par le sang précieux de Jésus et qui marchent en suivant sa volonté écrite et rétablie comme ses enfants. Il regarde aussi les autres qui ne marchent pas dans la vérité rétablie comme ses enfants, c'est certain, bien sûr, parce que s'ils ne savent pas, hein, ils sont innocents de la chose, s'ils savent, c'est un peu autre chose. Mais s'ils ne savent pas, il les regarde comme ses enfants, il les aime, il n'y a pas de problème. Et un papa... Il y a plusieurs papas au milieu de nous. Est-ce qu'un papa regarde son fils comme étant quelqu'un de supérieur à lui? Non. Ou est-ce qu'il regarde son fils comme quelqu'un d'inférieur à lui? Non. Il sait, lui, le papa, que comme son fils, il est humain. Son fils et lui, ce sont des humains. Cependant, il y a des règles normales. Il y a des règles normales pour une bonne relation papa-fiston. La moindre des choses, c'est que le fiston se rende compte qu'il n'est pas mûr comme son papa. Et ça, son papa doit le lui apprendre, sinon c'est l'enfant roi et c'est la catastrophe. D'accord? Vous me suivez toujours? Ce manque de maturité ne fait pas de l'enfant un sous-humain. Pas du tout. Mais la conscience de la réalité permet une bonne communication entre le papa et le fiston. Une bonne conscience de la réalité. De même avec notre Dieu, le fait que nous soyons ses enfants, ça fait de nous des êtres divins par nouvelle naissance. C'est vrai, n'est-ce pas? Ah, vous êtes des dieux. Ah bon? Ben oui, nous sommes nés de nouveau, nés de la volonté de Dieu, nés de par l'Esprit de Dieu, nous sommes des êtres divins. Mais, si parce que nous avons conscience de notre divinité, de la qualité de la nouvelle créature que nous sommes, et que nous nous permettons d'être insolents envers notre Père Céleste, ça va fausser la relation, croyez-moi. C'est normal. Il ne peut pas y avoir d'arrogance ni d'orgueil quand on a conscience de qui est notre Père Céleste. Oui, nous sommes... Jésus était un enfant, il a dû croître en stature et en sagesse, mais il était Dieu. Oui, nous devons faire attention dans la façon dont nous entretenons les relations avec Dieu et aussi avec les frères et sœurs et avec les gens dans ce monde. Si quelqu'un dit « Ainsi dit le Seigneur », il est en train de dire « Ainsi dit mon papa ». Mais si le papa n'a rien dit, c'est qu'il y a usurpation. Ça, c'est grave. Et ça fausse la relation. Et comment peut-on savoir si le papa n'a rien dit? Ben c'est si ce que le gamin a dit n'arrive pas. Il peut trouver toutes les excuses qu'il veut en disant « Oui, mais c'est de votre faute, parce que si, parce que ça. » Si l'Éternel a dit ce que l'Éternel a dit, il le fait. Vous savez pourquoi dans les 10 commandements, ce n'est pas écrit « Tu ne tueras pas », mais c'est écrit « Tu ne pourras pas tuer ». Tu ne pourras pas tuer impunément, c'est ça le sens. Parce que si Dieu avait écrit « Tu ne tueras pas », nous ne pourrions pas tuer. Parce que si Dieu dit une chose, ça, c'est comme ça. Est-ce que vous saviez ça? On apprend ça en théologie. Hein, voilà, un petit peu de théologie. Je pense que ce serait pas mal pour certains prédicateurs d'aller faire un peu d'école pour apprendre. Donc, un enfant qui dit « mon papa a dit que », alors que le papa n'a rien dit, c'est un menteur, un usurpateur d'identité. Et ça, c'est grave. Vous savez que rien que dans la loi humaine, l'usurpation d'identité, c'est très grave. Là, j'ai eu un problème avec mes plaques de voiture. J'ai reçu, en l'espace de 6 mois, 3 contraventions. Et j'ai pu prouver que ce n'était pas moi. C'est quelqu'un qui utilise mes plaques de voiture avec une voiture qui ressemble à la mienne, certainement. Et j'ai contesté. Eh bien, il a fallu que j'aille à la préfecture, il a fallu que je fasse des tas de papiers. J'ai perdu 2 matinées à faire tout ça, et j'ai dû payer encore en plus. Et c'est grave. Mais le bonhomme ou la bonne femme qui a fait ça, oui, ça va être grave aussi. Il y a des lois dans le monde humain, mais c'est la même chose dans le monde divin. Vous voyez, en tout, il doit y avoir de l'ordre et il y a une hiérarchie qui doit être respectée. Bien, cela dit, comment se passe une bonne relation entre Dieu et ses enfants? Alors, il faut d'abord savoir que Dieu ne se montre pas, le Père. Jésus se montre dans des situations très importantes. Il ne va pas se montrer pour te dire où il faut aller acheter des concombres qui sont moins chers qu'à supermarché machin. Ça, c'est des contes de bonnes femmes qu'on vous raconte dans les églises, que le Seigneur s'est déplacé, n'est-ce pas, pour des idioties pareilles. Mais il y a beaucoup de fables comme ça. Oh, le Seigneur a fait, oh, Jésus a fait. La plupart du temps, ce sont des anges. Ce sont des anges. Vous rendez-vous compte? Même pour la loi, même pour donner la loi à Moïse, c'était des anges. C'était pas, Dieu ne s'est pas déplacé. La plupart du temps, ce sont des anges avec qui nous avons affaire. Mais souvenez-vous de Jean à Patmos, quand il a vu l'ange, qu'est-ce qu'il a fait? Tomber par terre, il est tombé à genoux. Parce que c'est impressionnant. Et plusieurs fois, l'ange a dû lui dire, non, relève-toi. Et bon, il se remettait de nouveau à genoux. Non, relève-toi. L'ange fait relever à chaque fois parce qu'il n'est pas convenable que nous nous agenouillons devant quelqu'un d'autre que devant notre Seigneur. Hiérarchie oblige. Et s'il y a une hiérarchie dans le monde de l'esprit, aussi une hiérarchie ici-bas dans l'Église. Mais cette sorte de communication reste quand même très exceptionnelle avec les anges, je dis, hein. Celle qui est donnée à tous, le moyen de communication qui est donné à tous, c'est la prière. Alors maintenant, là aussi, c'est pourquoi j'enseigne ce matin, pas cette sorte de prière qu'on voit un peu partout. Par la prière, que nous soyons jeunes ou que nous soyons vieux chrétiens, nous entrons en esprit dans la salle du trône de Dieu. Et là, on n'est pas là comme quand on va sur Amazon, pour passer commande. C'est pas ça du tout. Là, nous sommes en présence de Dieu et nous écoutons et nous regardons. Je vous l'ai déjà enseigné ça, mais je ne sais pas si c'est rentré dans beaucoup de cœurs. Nous regardons, nous écoutons plus que nous parlons. Là, Dieu nous inspire les prières que nous allons devoir faire sur terre. Parce qu'il n'exauce que les prières qui correspondent à sa volonté. Laissez-moi vous donner un exemple de ce que c'est qu'une prière exaucée. En Suisse, je crois que je vous avais déjà dit cette histoire-là. C'est frappant, dans les montagnes, il y a des défilés. Et puis alors, il y a des endroits où c'est marqué « écho ». Alors, on se met là, puis on dit « oh, oh, oh », ou alors « trololololololo », ça dépend si on est… voilà. Et l'écho nous renvoie notre voix. On peut dire que les parois de ces défilés sont la vie, et le destin, ce sont nos prières que nous formulons selon la volonté de Dieu. C'est ainsi que tout ce que nous demandons selon la volonté de Dieu nous est donné comme l'écho qui nous renvoie le son de notre voix. Est-ce que vous me suivez bien? Mais ce ne sont pas que nos prières parlées qui agissent ainsi, ce sont aussi nos actes. Quand vous faites quelque chose, Dieu vous renvoie votre acte comme l'écho nous renvoie nos paroles, nos bruits dans ces défilés. Bon, je sais que des gens ne veulent pas croire ça, mais ben, tant pis, c'est pas grave, qu'ils vivent leur petite vie chrétienne bien, c'est gentil. Tout ce que nous faisons est porté jusqu'au cœur de Dieu et nous sera rendu de la même manière. Bibliquement, on appelle ça la loi de la semence. Dans le monde extérieur, on appelle ça la loi d'attraction. C'est la même chose. C'est la même chose. Celui qui nie la loi d'attraction, il nie la loi de la semence. C'est tout. C'est juste pour contrarier. C'est pour jouer sur les mots. Dieu agit comme l'écho de nos actes. Dieu agit comme l'écho de nos paroles. Mais il n'agit comme l'écho de nos actes et de nos paroles que si nos actes et nos paroles sont selon sa volonté. Si ce n'est pas selon sa volonté, on est dans la confusion. Il nous renvoie comme l'écho de nos actes, l'écho de nos paroles, de nos actes qu'il nous a inspirés, de nos paroles qu'il nous a inspirées. Relisons Jean 5, 19, 20. En vérité, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Alors ça, c'est... Alors là, les chrétiens. Seigneur, je ne peux rien faire par moi-même. Aide-moi, mon Dieu, pour avoir cette voiture que je désire tellement. Puis tu vois, j'en ai tellement besoin pour... Non, non, c'est pas ça. Hein. Je ne peux rien faire, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. C'est-à-dire que ce qui se passe ici, sur cette terre, ça se passe aussi dans les lieux célestes avant. Et quand nous sommes en communion avec Dieu, nous voyons les choses en esprit et nous venons les faire là. C'est ça la véritable prière. Et comme Jésus faisait, il a dit, vous ferez la même chose. Qui le fait? Voilà, ça c'est le plus haut niveau de communication, le plus haut niveau de communion avec Dieu. Jésus voyait ce que faisait le Père dans le ciel et il se levait de son moment de prière et il faisait les mêmes choses sur la terre. C'est tout. C'est tout. Il ne pouvait rien faire de lui-même, c'est-à-dire qu'il ne s'engageait pas à faire des trucs s'il n'avait pas vu le Père le faire d'abord. Il était soumis. C'était pas un arrogant. Bon, quand un enfant est arrogant, on lui pardonne.
Ah, je veux du chocolat. Ah, je veux du chocolat.
Ah, quand on va à Intermarché avec la Michou, mais quelle horreur, ces gamins, comme ils sont mal élevés.
Ah, je veux du chocolat.
Bon, ça va jusqu'à un certain âge, mais il arrive un moment, c'est ch'tac. Oh, pardon, faut pas dire. Faut pas dire une claque, parce qu'on est, on peut aller en prison maintenant si on donne une claque aux gamins. Bon, ben, voilà. Jésus-Christ ne pouvait rien faire de lui-même, il priait, c'est-à-dire il allait au trône du Père et il voyait ce qui était à faire et il le faisait ensuite dans sa journée. C'est très loin de ces réunions de prière infantiles, n'est-ce pas?
Seigneur, bénis ma maman. Seigneur, bénis mon papa. Seigneur, bénis mon beau-frère. Seigneur, bénis...
Quoi encore?
Donne-moi une voiture. Va...
Alors, le meilleur, c'est...
Va trouver Lucas qui a eu sa clavicule cassée, puis bénis-le, parce que moi, je n'ai pas le temps d'y aller. Étends ta main sur lui. Seigneur, mais quand je vais évangéliser, mets les bonnes personnes devant moi.
Oh, toi, le Seigneur est très occupé à faire ça. Ouais. Non, mais pas au Dieu, mais c'est infantile, c'est... Bref, c'est du catholicisme légèrement amélioré. C'est... Quand on pense que tel est Jésus, tel nous sommes aussi dans ce monde. N'avez-vous pas compris le secret du ministère de puissance? Même la trahison de Judas, Jésus l'avait vu. C'est pour ça qu'il dit à Judas, est-ce que tu as à faire, va vite le faire. Il l'avait vu. Il savait qui le trahirait. Il l'a même encouragé. Fais réfléchir, hein? Vas-y vite. Il avait vu que Pierre allait le renier. Pierre, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras déjà renié trois fois. Il le savait, pourquoi? Parce qu'il l'avait vu faire dans le monde de l'esprit. Il savait que la croix, c'était pas l'échec de sa vie, comme les nouillas le croyaient. Ce qui nous arrive en ce moment, c'est pas l'échec, c'est le summum du comble de la bénédiction de Dieu, contrairement à ce que les nouillas peuvent croire. Même Jésus le dit, il dit pas nouillas, il dit « Père, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. » C'est terrible, n'est-ce pas? Ils savent pas ce qu'ils font. Tandis que lui, il dit « Moi, je sais ce que je fais. Je vais à la croix, c'est vrai, c'est dur, c'est épouvantable, ça va me faire mal, ça va être affreux. » Mais bon, puis même à un moment, il dit « Mon Dieu, tu m'as abandonné. » C'est terrible, mais il savait pourquoi. Il dit « Mais les autres, là, c'est nouillasse, ils savent même pas pourquoi ils me trahissent, ils savent même pas pourquoi ils m'abandonnent, ils savent même pas pourquoi ils me critiquent, ils savent même pas, alors pardonne-leur, pardonne les nouillasses. » Et c'est exactement comme cela que ça marche chez les plus folles parmi les vierges folles. C'est comme ça que ça marche. Ils ne savent pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas leur en vouloir. Il faut les laisser tranquilles. Mais maintenant, on n'est pas obligé. Bonjour, tu m'as donné une claque hier. Je viens pour prendre la deuxième. Non, on n'est pas obligé. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que Judas savait ce qu'il faisait? Non. Vous auriez demandé à Judas, pourquoi tu trahis Jésus?
Parce que, à mon avis, si je trahis Jésus, ça va le faire bouger un peu.
Et puis, il va être bien obligé de se manifester contre les Romains et contre le pouvoir religieux. Et parce que là, au point où on en est, mais c'est pas possible qu'il fasse rien, mais quand même, faut le pousser, ce gaillard, avec les pouvoirs qu'il a. Alors, si je le trahis, c'est sûr, il va se manifester, vous comprenez? C'était peut-être ça son truc à Judas. Hein? J'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il y avait dans sa tête. Enfin, la Bible nous dit que le diable est entré en lui pour l'aider. Vous vous rendez compte? Bon. Bien sûr que non, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne savait pas que sans sa trahison, il n'aurait pas pu avoir un salut possible. Il ne savait pas. Vous voyez, mes frères et sœurs, vous voyez pourquoi il est important de prier? Pas de se réunir. J'étais avec Marc Rosa chez les jésuites, puis mais c'était formidable, très gentil, adorable, intelligent. Ils aiment Dieu, tout ce que vous voulez. Mais alors, je vous salue Marie, pleine de grâce, avec vous. Ça dure 3 quarts d'heure, hein, et ils le font 2 fois par jour, puis encore la nuit. Mais c'est terrible, c'est terrible. C'est pas ça prier. Prier, on prie afin de savoir ce que nous avons à faire. On rentre en communion avec Dieu pour voir ce que le Père fait, afin de le faire ici-bas, pour que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Nous allons dans la communion de notre Père afin de savoir ce que nous avons à demander. Et parfois, c'est tellement confus que même on est confus dans la salle du trône et on n'entend rien et on voit rien et on ne sait plus comment prier. Alors heureusement, il nous reste quelque chose d'extraordinaire. Dieu nous aide et nous donne un don surnaturel fantastique. Romains 8, 26, où il est dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Paul reconnaît qu'il est faible, il ne dit pas qu'il est parfait. Nous aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, même quand on ne sait pas comment prier, même quand on ne sait pas quoi demander, le Saint-Esprit, quand vous parlez en langue, quand vous soupirez devant l'Éternel, c'est la prière juste. Mais on a tout gagnant là-dedans. Celui qui parle en langue, il dit des mystères à Dieu, il ne sait même pas ce qu'il dit lui-même, mais il dit exactement ce qu'il faut dire. Mais bon, regardez ces pauvres frères branhamistes, ils sont gentils, pas toujours, la dernière fois que je les ai vus, ils étaient très gentils. Sinon, il y avait le frère, le picard, qui sonnait la cloche. Ding, 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 ding. Ça voulait dire, non, stop, on ne va pas plus loin. Ça, c'est un truc qui chicane. Bon, voilà, alors. Mais ces pauvres frères, ils croient que ce qui est parfait est venu. Ils croient que c'est frère Branham qui est parfait et il est venu. Et alors, ils bâtissent une espèce d'échafaudage en disant, il y avait en frère Branham exactement toutes les vertus qui étaient en Jésus. Donc, voyez, ce qui est parfait est venu en Branham afin de nous montrer une dernière fois, juste avant le retour de Jésus, la perfection. Et maintenant, c'est pourquoi il n'y a plus les langues, il n'y a plus les prophéties et tout ça. Ils sont cohérents dans leur croyance, mais les fausses, c'est faux. C'est tout faux. Mais ils sont cohérents, au moins on peut leur laisser ça, ils sont cohérents. Quand ce qui est parfait sera venu, la Bible nous dit que les langues cesseront. Et voilà, ils ne parlent plus en langue. Et quand ils nous entendent parler en langue, ils disent « c'est du diable ». Ben écoutez, mais c'est normal, c'est cohérent de penser comme ça quand on pense comme ça. Vous voyez dans quelle erreur ils sont, par faute de connaissance. Moi je dis, il y a des choses qui manquent dans ce monde. Je ne sais pas chez vous en France, mais enfin si je sais un petit peu, maintenant ça change un peu. Chez nous, le service militaire, c'est obligatoire. Eh ben, c'est très bien. Ça forme un petit peu tous ces jeunes gens à marcher droit. Ensuite, vous pouvez pas être plombier sans faire un apprentissage de 3 ans et demi. C'est très bien. Ici, vous avez des plombiers, ils ont trouvé une clé molette, et puis ils sont foutus plombiers avec leur camionnette. Puis on a vu ce que ça donne avec le gitan qui est venu nous installer notre salle de bain, une horreur. Oui ou non? Voilà, ça, c'est la France, la chienlit. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut de l'ordre. Hein? En France, vous avez n'importe quel glu barbu avec... voilà, il se bombarde. Imam, vous avez vu ce que ça donne. Mais c'est la même chose chez les chrétiens. N'importe quel illuminé... Tout d'un coup, il va se bombarder pasteur ou prophète ou je sais pas quoi. Et puis, mais il y a des écoles. Il y a toujours eu des écoles. Dans la Bible, il y a des écoles. On apprend, on ne bricole pas. Je l'ai toujours dit ces choses-là. Mais vous voyez, par faute de connaissances, mon peuple périt, c'est comme ça. Bon, vous me direz aussi, il y en a beaucoup qui vont à l'école et qui fichent rien du tout de bien. C'est vrai aussi, parce qu'il faut aussi la vie de l'esprit. Il ne faut pas que l'école. Mais il ne faut pas être extrémiste dans un sens ou dans l'autre, il faut être sur le milieu du chemin. Ça aussi, je vous l'ai toujours enseigné. Bon, ce n'est pas notre problème. Laissez-moi vous raconter une histoire pour vous montrer la sagesse de Dieu dans le cas de celui qui écoute. C'est un homme d'affaires, ça c'est un homme d'affaires qui n'écoute pas, hein, qui ne connaît pas Dieu, qui n'écoute pas, et il a des pensées. Il aime Dieu, mais il ne va pas, quand il prie, c'est comme quand il va sur Amazon pour passer commande. C'est une façon de prier. Demandez, vous recevrez, c'est aussi écrit quand même. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le but. Bon, alors, c'est un homme d'affaires. Il se trouvait dans un hôtel où on était, Michou et moi, il n'y a pas longtemps. Puis on a vu, hein, ce bonhomme, le matin, il était tout paniqué parce que il avait mal stationné sa bagnole. Alors, les flics sont venus, je ne sais pas, c'est une jourière ou je ne sais pas quoi qui est venu, puis ils lui ont mis les plots, vous savez. Et puis, ben voilà, il allait perdre du temps, il n'allait pas pouvoir aller vers son rendez-vous, il était embêté, il était là à la réception en train de parler de tout ça, ils ont dit, écoutez, on va passer quelques coups de téléphone, on va vous appeler un taxi, vous allez pouvoir y aller. Et alors, il est allé au bar, et puis il a pris un café, il était tout énervé, et soudain, il a pensé, ah, voilà, je sais pourquoi. Hier, j'ai trouvé un billet de 50 euros dans la rue, et j'aurais sans doute pas dû le prendre. Parce que Dieu, qui nourrit même les petits oiseaux, il avait permis que quelqu'un qui avait ce billet-là le perde, afin que quelqu'un de pauvre puisse le trouver, quelqu'un qui en avait vraiment besoin, alors que moi, ben, j'en ai pas vraiment besoin. Et je l'ai pris, et c'est à cause de ça, je suis puni. C'est pour ça que tout va de travers dans ma journée. Oh, peut-être que j'ai interféré avec ce qui est écrit dans la volonté de Dieu. Alors il se sentait mal à l'aise. Et il avait vraiment envie de se débarrasser de ce billet de 50 euros. Alors il sort de l'hôtel après avoir réglé son truc, et puis sa consommation. Et puis il sort, et puis là, il voit qu'il y avait un mendiant qui était là. Alors il dit, voilà, je vais réparer ma faute, je vais lui donner les 50 euros, comme ça je serai débarrassé de cette histoire. Vous voyez les pensées, hein? Et le mendiant lui dit, un moment monsieur! Alors le type, il se retourne, l'homme d'affaires, et le mendiant lui dit, « Je suis poète, et pour vous remercier, je vais vous dire un poème. » Alors l'autre qui était déjà en retard, énervé, un poème par un clodo, et tout, puis il s'est dit, « Non, il faut quand même que je sois gentil, la Bible dit qu'il faut que je sois gentil, donc je vais être gentil. » Alors il dit, « D'accord, mais alors un cours, s'il vous plaît, parce que je suis très très pressé, j'ai un rendez-vous. » Et le mendiant lui répond, « Si vous êtes toujours en vie, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé là où vous deviez aller. »
Voyez, mes frères et sœurs, celui qui ne communique pas avec Dieu, qui n'écoute pas Dieu, il s'invente des tas de choses bizarres. Il prend ça pour des trucs qui arrivent, il les prend pour des interventions de Dieu, des signes de Dieu. Et puis, c'est un de ces foutoirs, excusez-moi, mais c'est un déséquilibre. C'est un échafaudage déséquilibré sur lequel je ne monterai jamais. C'est un échafaudage fabriqué de briques et de brocs, d'expériences, de faits dans le passé, de toutes sortes de signes, et ça devient de la superstition, de la religion gluante, tout ce que je déteste. Je me souviens d'un frère qui me disait, vous le connaissez,
mais Michel,
il disait, mais Michel, vu ce qui se passe en ce moment, mais c'est impossible que ceci ou cela ne se passe pas, ça doit arriver, c'est impossible. Autrement, je dis, attends frère, j'essaie de lui faire comprendre que c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu, mais il m'a pas écouté. Aujourd'hui, il me fait la gueule. Il a oublié qu'un vieux serviteur fidèle lui avait dit de faire une certaine chose, et il le fait plus.
Parce qu'il y a des signes, parce qu'il y a des « Ah, Dieu m'a béni parce que si, ah, ouais, c'est exceptionnel, n'est-ce pas ?»
Il a oublié. Raphaël, lui, il avait une vraie spiritualité. Il savait écouter Dieu. Et il m'a appris, je n'ai pas compris tout de suite, il faut du temps. On est à l'école du Saint-Esprit. Il faut du temps. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai essayé de vous apprendre ces choses. Mais qui veut apprendre ces choses? En fait, mes frères et sœurs, Dieu est partout, mais il ne vit, il ne se manifeste que là où on le laisse entrer. Et ça passe par une hiérarchie. Il y a de l'ordre. Combien ne croient pas ces choses et se croient spirituels parce qu'ils passent des heures à prier? C'est grave. Je pense à mes amis catholiques qui répètent « Je vous salue Marie ». Je pense à ces protestants qui répètent toujours « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Je pense à ces évangéliques qui répètent sans cesse « Seigneur, tu as dit dans ta parole ». Je pense à ces frères et sœurs qui sont zélés d'un zèle sans intelligence. Et ça me fait soupirer. Je vais terminer par une histoire. Un jour, un maître dit à son disciple, « Va, marche, et un jour tu vas trouver une porte fermée avec une inscription dessus. Quand tu auras trouvé cette porte, viens me dire ce qui est écrit sur cette porte. » Alors le disciple est parti pour chercher cette porte. Un peu comme je suis parti pour chercher les pierres sur lesquelles la lumière n'avait jamais brillé dans les nations. Et ce disciple-là trouva la porte. Et il revint donc vers son maître et lui dit, « Maître, sur la porte il était écrit, ce n'est pas possible. » Alors le maître regarda le disciple et lui dit, « C'est écrit sur un mur ou sur une porte ?»« Sur une porte, maître, c'est écrit sur une porte. » Alors le maître lui dit, « Retourne, pose ta main sur la poignée de cette porte et ouvre-la. » Le disciple a cru et il a fait, il a obéi. Et comme cette inscription, elle était peinte sur la porte, en pivotant la porte, en même temps, l'inscription a pivoté. Et quand la porte s'est trouvée grande ouverte, le disciple ne voyait ni la porte, ni l'inscription. Alors, il avança. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Amen. Amen. Jésus, sois béni. Sois remercié pour l'inspiration que tu me donnes. Et je te prie, mon Dieu, de bénir tous ceux qui, au travers de leurs paroles, de leurs attitudes, de leurs écrits, me donnent cette inspiration pour que je puisse la communiquer. Merci de ce que tu me dis alors que je suis dans la prière. Merci pour tous ces moments bénis, merveilleux. Et je te prie, mon Dieu, que ceux qui se sont égarés puissent se rendre compte des dégâts qu'ils ont causés. Au nom de Jésus. Amen.